Mathieu Olivier, Benjamin Roger, bonjour.
Bonjour.
On vous reçoit aujourd'hui pour parler d'une bande dessinée que vous venez de faire paraître avec votre camarade de dessin qui s'appelle Thierry Chavant. Le titre, c'est Wagner, l'histoire secrète des mercenaires de Poutine. C'est ce dont on va parler, bien sûr. Mais tout d'abord, expliquez-nous pourquoi vous avez choisi le support de la bande dessinée. C'était pour rendre les choses plus pédagogiques, plus accessibles?
Oui, il y a un intérêt à toucher un public qui est plus grand sur des affaires africaines qui attirent pas forcément beaucoup le regard à la base. Donc, nous, étant journalistes à Jeune Afrique, on a l'habitude de s'adresser à des spécialistes. Là, c'était l'occasion de parler de la Centrafrique, du Cameroun, du Mali, à un public beaucoup plus large. Et puis, nous, on est des lecteurs de bandes
Bande dessinée.
dessinées et de bandes dessinées d'investigation. Donc, ça nous a paru assez vite très logique.
Donc, le groupe Wagner, une histoire pas si secrète que ça, puisque vous en parlez régulièrement dans les pages de Jeune Afrique, bien sûr, et vous établissez une chronologie de l'évolution du groupe, d'abord évidemment en Ukraine et en Europe, mais surtout très rapidement en Afrique. La première expérience en Afrique, c'était où?
La première grosse expérience, c'est au Soudan et surtout en Centrafrique ensuite. C'est pour ça qu'on a appelé ça, nous, le laboratoire centrafricain. On s'est rendu compte que Wagner testait finalement tout son système, c'est-à-dire son offre de sécurité au président Touadéra, c'est son système d'entreprise dans le bois, dans l'or. Enfin, voilà, c'est devenu très tentaculaire. Donc en fait, ce système mafieux qu'on a voulu raconter tout au long de la BD, il s'est mis en place en Centrafrique et ensuite il est venu s'exporter au Mali. Voilà, on a vraiment voulu montrer cette première expérience centrafricaine qui en plus vient dans un contexte de sentiments anti-français où on a vu le recul de la diplomatie française, des intérêts des entreprises françaises, ce jeu de propagande entre Moscou et Paris. C'est tout ça que racontent finalement Wagner et Evgeny Prigogine en Afrique, quoi.
Ce qui est assez marquant d'ailleurs dans la bande dessinée, puisque vous en parlez, c'est la sorte de candeur ou d'innocence du ministère des Affaires étrangères français quand il voit arriver Wagner en Centrafrique et puis ensuite au Mali. Il y a des alertes, les ambassadeurs, les relais français en Afrique émettent des alertes. Et finalement, on prend ça un peu par-dessus la jambe.
C'est aussi un peu ce qu'on raconte dans ce livre et dans cette BD. C'est d'abord le succès assez fulgurant finalement en quelques années des Russes à travers Wagner en Afrique. Et en creux, c'est aussi évidemment l'échec des autorités françaises depuis plusieurs années qui n'ont pas vu ou qui n'ont pas voulu voir. Et qui petit à petit, les signaux s'amoncelaient de la Centrafrique jusqu'au Mali. Aujourd'hui, on parle il y a le Burkina Faso, maintenant il y a le Niger. Et tout au long de ces années, il y a eu plusieurs signaux. Alors les Français ont fini par voir, par comprendre, mais toujours avec un train de retard.
Sur le modèle économique, puisque c'est un business model en fait, Wagner en Afrique, il y a la façon de se rémunérer. Donc c'est de l'or, bien sûr, on en a parlé, du café, de la brasserie, tout un tas d'activités en Afrique. Ce qu'on sait moins, c'est qu'une fois que ces ressources sont exploitées, elles transitent par Douala ou par Dubaï. Ça, c'est quelque chose dont on parle un petit peu moins.
Wagner, c'est évidemment connu comme un groupe de mercenaires, mais en fait, c'est bien plus que ça. C'est une énorme nébuleuse de différentes sociétés dans différents domaines et notamment des sociétés écrans. Il y a un modèle de prédation, clairement, où on va les servir directement un peu sur la bête, entre guillemets. Par exemple, dans les mines en Centrafrique, c'est ce qu'ils essayent de faire au Mali en ce moment. Ils sont avec l'orpaillage artisanal. Au Soudan, pareil, c'était dans des mines. On voit les différents secteurs et business dans lesquels ils sont. Après, ce qui est très difficile, c'est à chiffrer concrètement combien de kilos, de tonnes d'or ils ont réussi à sortir en 2023 de Centrafrique, du Mali, et qu'est-ce que ça représente concrètement en argent? Et alors, il y a eu deux, trois études, des rapports faits par des organismes internationaux, des ONG, mais c'est des estimations, c'est très difficile à chiffrer, mais on parle là de plusieurs dizaines, voire centaines de millions de dollars.
Prigogine est décédé, Wagner s'appelle désormais Africa Corps. Est-ce que cela veut dire que vous préparez un deuxième volume de votre BD?
Pourrait y en avoir un, effectivement, Wagner, c'est ça qui est assez extraordinaire, c'est-à-dire que Wagner n'a pas disparu, les hommes de Wagner et les hommes qui étaient les hommes de Prigogine sont pour la plupart toujours en poste avec une tutelle plus importante du renseignement militaire russe, donc c'est une reprise en main depuis la mort de Prigogine de la part du Kremlin et du ministère de la Défense russe. Mais les activités demeurent, que ce soit en Centrafrique, on voit que malgré quelques tentatives du côté des Américains de venir gêner les activités russes à Bangui, les héritiers de Wagner sont toujours omniprésents autour de Faustin Archange Touadéra. Au Mali, on voit qu'ils sont toujours omniprésents autour d'Assimi Goïta. Leur influence est de plus en plus importante au Burkina Faso. C'est ce qu'on voulait aussi raconter, en fait, en racontant Wagner, on racontait pourquoi Wagner allait survivre à Evgeny Prigogine, c'est-à-dire que Evgeny Prigogine meurt, l'intérêt de Wagner demeure.
Mathieu Olivier, Benjamin Roger, merci.
Merci à vous.
Merci.